tous les surveillants pénitentiaires qui nous écoutent par votre intermédiaire. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. À bientôt dans les GG, à bientôt dans les Grandes Gueules.
RMC, les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules, c'est lundi. D'ici là, passez un bon week-end. Et lundi, 9h midi, on se retrouve ensemble, bien évidemment, pour discuter, pour débattre. Au 32-16, Flora Guébali sera là, tout comme Charles Consigny, l'avocat, et Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules. Tout RMC en podcast sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Anaïs Castagna.
RMC, Anaïs Matin.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Anaïs Matin de 6h à 9h sur RMC. On va se réveiller ensemble dans la bonne humeur, c'est ma promesse, avec toute ma bande, toute la bande d'Anaïs Matin, Peggy Broche, Thibaut Jean-Grand, Rémi Jacob, les correspondants d'RMC en région et vous, évidemment, au 32-16. De l'info toutes les demi-heures et des invités qui font l'actualité. A tout à l'heure, dès 6h sur RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Et si on interdisait carrément la vente des smartphones aux moins de 15 ans? Bonjour Jérémy Patrieletus.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Vous êtes député Horizon du Calvados. Et votre parti pris ce matin, c'est l'objet d'une proposition de loi que vous allez déposer aujourd'hui avec votre collègue socialiste, Aïda Adizanede. L'idée, c'est carrément d'interdire la vente des smartphones aux moins de 15 ans. L'interdire la vente ou le fait d'en avoir ?
La cession, la mise à disposition, l'idée, c'est de lancer un signal fort et de dire qu'aujourd'hui, pour un jeune de moins de 15 ans, avoir un smartphone, c'est une bombe à retardement. Et pas peur des mots, dans ce contexte, c'est une arme aussi de destruction de l'estime de soi, du lien social, du lien avec les parents, de l'attention, des troubles anxieux. De dire qu'aujourd'hui, aucun parent ne donnerait un verre de vin ou une arme à un enfant. Et pourtant, nous mettons tous à disposition de nos enfants les smartphones. Et donc, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, ces outils-là sont dangereux pour nos jeunes.
Que ces outils sont dangereux, comment ça peut... Parce que, je veux dire, après, il faut réfléchir aussi à l'efficacité. C'est pas les jeunes de moins de 15 ans qui viennent les acheter, ce sont leurs parents. Aucun jeune de moins de 15 ans n'a les ressources pour pouvoir rentrer dans un magasin de téléphonie et acheter un smartphone. Donc concrètement, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que les parents qui les achètent pour leurs enfants vont vraiment se les faire interdire ?
L'idée, c'est de responsabiliser les parents et de leur dire aujourd'hui, vous savez, ils subissent la pression sociale, les parents. Les parents nous disent, les camarades de mes enfants ont un smartphone, moi j'ai du mal à fixer des règles et à fixer un cadre. Et une loi, c'est aussi un signal, c'est aussi un message fort de dire aux parents, vous voyez, aujourd'hui en France, c'est interdit pour les jeunes d'avoir un smartphone. Donc c'est de leur donner aussi les outils à eux de résister à la pression de leurs enfants qui demandent tous des smartphones et de les aider aussi dans leur rôle de parent. Aujourd'hui, il n'y a pas de bon usage d'un smartphone. Moi, je défie un parent de me dire pourquoi un enfant aurait le droit à 10 ans, à 8 ans d'avoir un smartphone. Nous, on propose...
Vous n'interdisez pas forcément le téléphone, c'est-à-dire que le bon vieux téléphone à touche qui permet d'être joignable, d'appeler ou d'envoyer des SMS.
Dans notre loi, nous proposons la création d'un label, c'est-à-dire des téléphones à service et fonctionnalités limitées, c'est-à-dire des téléphones que nous labelliserons et où nous dirons ça, c'est un bon usage pour des enfants. Est-ce qu'on pense c'est normal qu'aujourd'hui un jeune de moins de 10 ans ait le même téléphone qu'un adulte de 40 ou de 50 ans? C'était pas normal. J'étais hier dans une classe de CM2 et un élève me disait, vous savez, monsieur le député, nous donner un smartphone, c'est comme si vous nous mettiez sur l'autoroute dans une voiture sans qu'on ait le code de la route.
C'est le jeune qui me disait.
Et c'est le jeune de CM2. Vous savez, nos enfants, ils sont lucides. Hein. Je vais dans les classes et à la fin de mes interventions, je demande qui aujourd'hui serait prêt à interdire les smartphones et les réseaux sociaux. Et même si les jeunes les utilisent, ils sont les premiers à demander aussi qu'on les aide à résister.
Et ils sont parfois soulagés même. C'est vrai, je l'ai constaté. Qu'on leur mette des limites là-dessus. Pour autant, vous vous heurtez à un business, un énorme business. Et j'en suis presque, j'allais dire, témoin moi-même lorsque j'ai plusieurs fois tenté d'acheter des téléphones les plus réduits possibles pour mes propres enfants. Je me suis fait rire au nez par les conseillers dans les boutiques Orange, Bouygues ou SFR qui me disaient, mais attendez madame, ça n'existe pas. Je disais, je voudrais juste un téléphone où il n'y a pas d'internet. Ah non, mais c'est ridicule, c'est pas possible, ça n'existe pas. Vraiment, on le sent, le vendeur qu'on a en face de nous fait tout à l'inverse, même quand on a la volonté de ne pas acheter un smartphone pour son enfant de moins de 15 ans, la volonté de nous le mettre entre les mains.
Vous avez raison, Pauline de Malherbe, et c'est pour ça que la loi que nous portons avec Aïda Adizadeh, c'est de dire aussi aux constructeurs, demain, il vous faudra proposer des téléphones à service et à fonctionnalité limitée, et la loi va vous aider, puisqu'elle proposera un label. Et donc, fixer cette interdiction, c'est encourager les constructeurs à développer des outils adaptés à nos jeunes. Vous savez, on encadre les médicaments dans notre pays, on encadre les jouets dangereux, on encadre l'alcool. Il est temps d'interdire aussi l'usage des téléphones et les outils.
Vous allez déposer cette proposition de loi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle soit examinée et quand ?
Je l'espère, c'est une loi transpartisane. Elle doit réunir les députés au-delà de leurs étiquettes politiques. Et j'espère qu'à l'automne, nous aboutirons. Il y a quelques années, nous avions fait voter avec Laurent Marcangeli au Horizon l'interdiction des réseaux sociaux à 15 ans. Il est temps aujourd'hui d'interdire les outils.
Merci beaucoup, merci Jérémy Patrie-Létus. Vous êtes député Horizon d'être venu donc défendre votre parti pris.
RMC, Apolline Matin.
Du lundi au vendredi, 6h39h.
Sur RMC, tous les dimanches de 13h à 15h, c'est Stephen Brunch.
Il est 13h04, vous êtes bien sur RMC. C'est votre émission du dimanche, Stephen Brunch, 13h à 15h.
Invité, news, débat sans fil, la libre antenne sport du dimanche midi avec Stephen Brun et vous au 32-16.
Ils ont réussi même à te donner une émission, donc attendons, c'est que tu le mérites. Bon, quand on voit Moscato, tu me diras, tout était possible. Hein, donc,
RMC, Stephen Brunch, le dimanche, 13h-15h.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
Richard Ramos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député, député Modem du Loiret. Aujourd'hui, il y a 1500 marques qui l'ont adopté. Ça représente à peu près 60% du marché. Pourquoi ça bloque? Pourquoi c'est pas obligatoire?
Parce qu'il y a quelques industriels. Il y a beaucoup d'industriels qui aujourd'hui sont contents du Nutri-Score. Ils disent même que ça a amélioré la recette. Il faut savoir, quand on voit le Nutri-Score, ça veut dire que c'est moins de morts, moins de maladies. Et c'est assez rare, c'est ce qui a été plébiscité par le consommateur. C'est lisible et ça marche, ça sauve des vies. Mais il y a des industriels, ça les arrange pas. Quand je, pardon de dire une marque, quand je bois de l'Actimel, il y a des fois parfois plus de sucre que dans un soda. Quand j'avais une marque Björk qui était bio, je croyais que c'était bon, merde, c'était bourré d'additifs. Le Nutri-Score nous a dit ça. Alors il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui veulent pas ce combat que je mène depuis des années contre la malbouffe au nom du fric, parce que le nouveau algorithme, vous savez, il y a un algorithme qui regarde ce qu'il y a dans le produit et il dit ah c'est bon, c'est pas bon. Il y a un nouvel algorithme qui s'est amélioré et qui a affiné le Nutri-Score. On a été chercher des choses.
On était sur le gras, désormais on est aussi sur le sucre, désormais et donc effectivement on a une photographie plus précise de ce que représente vraiment le produit.
On avait sel, sucre, gras, on a été chercher plus de choses. Pour le petit déjeuner, on a été chercher les produits où il y a plus ou moins de fibres. On a, vous savez, il y a des gens qui avaient mis des édulcorants, ce qu'on appelle l'aspartame, pour ne pas mettre de sucre. Ils avaient une bonne note au Nutri-Score. Maintenant, le Nutri-Score, il se dit, attention, l'aspartame, ça peut être cancérogène. Je le regarde dans mon logiciel. Et donc, j'ai affiné. Et il y en a des gens, ça ne les a pas arrangés qu'on dise la vérité aux consommateurs.
Mais pardon, Richard Ramos, avant même qu'on affine avec le nouvel algorithme, c'est-à-dire avec ce Nutri-Score, j'allais dire deuxième version, déjà la première version, il y a beaucoup de marques qui ne le faisaient pas, qui ne jouaient pas le jeu.
Mais bien évidemment, parce qu'il y avait plein de gens qui ne voulaient pas dire qu'ils faisaient des produits qui n'étaient pas bons pour la santé. Et ils ne voulaient pas le dire aux consommateurs. On avait des publicités pour les enfants, on avait un certain nombre de choses qui étaient très flatteurs. Mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et cette non-transparence, c'est ce qui leur permettait de faire leur business. Mais ce que ne comprennent pas ces marques-là, c'est que la demande de ceux qui nous écoutent ce matin, c'est une demande de transparence. Quand je bouffe plein de Ferrero, si j'en mange 50, je sais que ce n'est pas bon pour moi. Donc je ne vais pas en mettre. Mais il y a des produits, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et là, c'est dangereux parce que vous mangez un produit ordinaire avec vos enfants, et ce produit-là que vous croyez être bon, il n'est pas bon. Et le Nutri-Score, ça a révélé cette demande consommateur qui est la demande de transparence.
Et on le sent bien, c'est vrai que moi, quand je fais mes courses, désormais, s'il n'y a pas le Nutri-Score, de toute façon, je comprends. Je comprends que s'il n'y a pas le Nutri-Score, c'est que sans doute, il est mauvais. En tout cas, je trouve ça louche. Donc, il y a presque un intérêt. Enfin, je le dis vraiment en tant que consommatrice, quand je suis dans les rayons, moi, s'il n'y a pas le Nutri-Score, j'en déduis qu'il est mauvais. Donc, la transparence serait bien mieux pour tout le monde.
Mais bien évidemment, pour le consommateur, et pour beaucoup, beaucoup d'industriels. Simplement, le consommateur va être gagnant. Et pourquoi on en est là aujourd'hui en France? Pourquoi on est si nombreux, 2500 chercheurs, près de 150 parlementaires de tous les bords politiques? C'est qu'on devait l'avoir au Parlement européen. Et les lobbyistes, vous savez, ceux qui font pression sur le politique, notamment l'Italie, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de débat au Parlement européen. C'est pour ça qu'on revient sur le débat français. Mais vous savez...
Mais on achètera quand même du Nutella de temps en temps, même s'il y a marqué
Exactement, ce n'est pas grave. Moi, vous savez, je suis même prêt à dire, et je bagarre avec Serge Hetzberg, qui est ce professeur, le papa du Nutri-Score. J'ai eu Serge au téléphone, je lui dis, moi, je défendrai auprès de toi qu'on fasse une exception pour tous les produits AOC et AOP. C'est-à-dire tous nos produits charcutiers, fromagers qui sont à la coupe. Allez, pour l'instant, on les exonère de cette obligation-là parce qu'il y a une tradition française. Allez, on est prêt à ça. Moi, je suis prêt à lâcher ça.
Et donc, tout ce qui est à la coupe.
Tout ce qui est à la coupe et tout ce qui est surtout, pardon, sous signe de qualité. Vous savez, les AOP, les AOC.
Les appellations d'origine contrôlée, d'origine protégée.
Et donc là, on pourrait les exonérer parce qu'il y a une tradition française. Et sur le reste, on met partout. Mais vous savez, Apolline de Malherbe, le combat sur la malbouffe, c'est tous les jours. Quand je vois aujourd'hui Lidl qui est en train de dire à nos paysans, je vais vous payer 6 centimes de moins, c'est-à-dire les faire crever, et je veux que vous remettiez des OGM. C'est qu'on est des combats qui sont journaliers.
En ce moment-là,
aujourd'hui où je vous parle, il y a Lidl qui est en train de dire sur des dizaines de millions de litres de lait, qui est en train de dire aux paysans, eh bien maintenant, vous avez le droit de mettre des OGM et je veux que vous soyez moins cher. Et depuis que Michel Biérot, le patron de Lidl, a été viré en 48 heures, même si je combattais des fois avec Michel Biérot, j'ai dit des fois des mots trop forts quand j'ai dit la Gestapo est revenue, mais on est en train de tuer nos paysans en leur disant je vais t'acheter du lait moins cher, mais je vais rajouter des OGM.
Le coup de gueule ce matin de Richard Ramos. Merci d'être venu dans ce studio.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
RMC.
Ils sont sportifs.
Ils se voient le week-end.
Ils forment une grosse équipe.
Ils ne pratiquent pas la langue de bois.
Ils aiment le rugby,
le foot,
le judo,
l'escrime,
le cyclisme,
le handball,
la voile,
le karaté,
le skateboard,
la pétanque,
le ski,
le biathlon,
le triathlon,
le
décathlon.
Et surtout, le sport.
Ce sont les grandes gueules du sport, bien sûr.
Tous les samedis et dimanches, 9h midi sur RMC. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff.
Arthur Delaporte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député socialiste du Calvados et vous êtes à la tête de cette commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. On va citer le nom, même si je dois vous avouer que je ne les connaissais pas tous avant aujourd'hui. Alex Hitchen, le couple Julien et Manon Tanti, Adé Laurent, Nasdas. Pourquoi ces cinq-là et pourquoi est-ce qu'ils posent problème ?
Alors, ces cinq-là, c'est parce qu'ils sont remontés notamment des signalements qui nous ont été faits par les citoyens. On avait lancé une grande consultation citoyenne il y a de cela un mois et demi. On l'a clôturée à la fin du mois de mai. On a eu plus de 30 000 réponses. Et parmi ceux qui revenaient de façon récurrente quand on demandait quels sont les influenceurs qui vous choquent, il y avait ces noms-là. Et puis aussi, quand on a fait des tables rondes sur des thématiques spécifiques, par exemple sur le sexisme, on nous parlait... par exemple, beaucoup d'Adé Laurent ou d'Alex Hitchens. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de les convoquer, pour qu'on puisse à la fois discuter avec eux, pour savoir s'ils comprennent bien qu'il y a énormément de mineurs qui regardent leur contenu. Et puis deux, voir leur modèle économique, parce que tout ça, tous ces contenus problématiques rapportent beaucoup d'argent.
Et c'est épouvantable. Tout à l'heure, Mathieu Béliard nous dressait notamment le portrait de Nasdas, des propos de Nasdas qui est suivi par combien de personnes ils sont suivis d'ailleurs ?
Alors, Nasdas, c'est 700 000. C'est presque un petit joueur Nasdas, c'est 4 millions. Mais on a des petits joueurs. Alex Hitchens, c'est 700 000 abonnés. Mais finalement, c'est pas tant le nombre d'abonnés qui compte, c'est le nombre de vues, de likes qu'on va faire. Et par exemple, ça peut être des vidéos à 2, 3, 4 millions de vues quand elles sont un peu virales. Et puis c'est aussi des lives. Les lives, c'est de la diffusion de vidéos en direct qui est quasiment incontrôlable, où on peut dire tout et n'importe quoi. Et finalement, ça aussi, ça pose problème parce que, je le redis, ce sont des très jeunes qui suivent ça. Moi, je vais dans des classes de CM2, je leur demande des influenceurs qu'ils connaissent. Ils me parlent de Nasdas, d'Adé Laurent, parfois en rigolant un peu parce qu'ils sentent bien qu'il y a une forme d'interdit. Mais on va dire qu'à l'âge de 11 ans, il y a un jeune sur deux qui a un compte TikTok et qui est potentiellement exposé à ce
contenu. Alors qu'officiellement, on le c'est soi-disant interdit au moins de 13 ans. On y reviendra. Mais quand on regarde, effectivement, on a les propos que nous rapportait Mathieu tout à l'heure. Nasdas, il dit par exemple à une jeune fille qui suit sa communauté, il lui dit au nom de sa communauté, donc ma communauté me fait remonter des problèmes de tenue. Elle me dit elles sont habillées comme des putes, je vais devenir autoritaire. Tu te changes cette agressivité, cette violence, ce sexisme, ce virilisme, c'est épouvantable. C'est aussi de la violence, c'est aussi des scènes qui ne sont pas coupées avec des couteaux, avec des bagarres.
C'est des téléphones qu'on envoie à la figure d'une femme si elle a été un peu trop aguicheuse. Voilà, ça c'est la réalité de ce qui se passe chez Nasdaq. Mais c'est vrai que c'est presque pire encore. Et c'est bizarre de dire ça comme ça.
Comment ça
chez Alexis Chels, bon, je sais pas, je vous prends une ou deux citations comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit vous prenez son téléphone, si elle refuse de le donner, c'est une pute, fin de relation. Lorsqu'elle fait une erreur, il faudra la punir. La punir. La majorité des femmes, énormément de putes, peu de filles bien. Voilà un peu le genre de propos qui sont véhiculés par ces influenceurs.
Et mais
qui
au moment où on se parle, ils sont toujours sur les réseaux là.
À l'heure où je vous parle, leurs comptes sont encore
actifs. Ces propos-là, ils sont bien sur les téléphones portables de nos ados.
Bien sûr. Et Adé Laurent, par exemple, il vend des formations de séduction. Il explique évidemment que pour donner du plaisir, il faut avoir un sexe énorme. Et donc il passe son temps à parler de son sexe, à parler de ses performances, à parler de son nombre de conquêtes. Alors évidemment, c'est bien quand un garçon a beaucoup de conquêtes. Par contre, une fille, non. C'est par exemple Hitchells qui diffuse quelque chose qu'on appelle le body count. Et donc le body count, c'est le nombre de relations sexuelles qu'on a eues. Et si on en a eu trop, quand on est une femme, on est une pute. Par contre, pour un garçon, c'est normal.
C'est
normal de tromper sa femme. Par contre, pour une femme, c'est pas normal de tromper son compagnon. Donc vous voyez, en fait, tout est asymétrique et on diffuse des normes qui sont extrêmement genrées, extrêmement sexistes.
Alors, heureusement que vous êtes là, j'ai envie de dire. Franchement, je trouve ça effrayant. Je me dis que pendant des années, et pardon, hein, mais je me dis même nous, les journalistes, les politiques, je me souviens de polémiques pendant des semaines sur le fait qu'il y avait des pages bleues pour les garçons et des pages roses pour les filles dans les catalogues de jouets de Noël et on en faisait un scandale. Là, on est sur quelque chose d'absolument abominable, immonde, et qui se trouve effectivement dans le téléphone de tous nos ados. Qu'est-ce qui va suivre ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez leur dire et quels sont vos outils pour mettre fin à cette propagande sexiste, outrageuse, genrée, abominable pour nos enfants ?
Alors déjà, dire que notre commission d'enquête, ce n'est pas un tribunal, ça vise à comprendre des mécanismes. Donc nous, on n'est pas là pour les punir eux, mais on est là surtout parce qu'on auditionne TikTok jeudi prochain et qu'on demandera à TikTok aussi de nous expliquer pourquoi il laisse ses contenus sur des plateformes qui sont accessibles aux mineurs. Et donc, il y a un enjeu premier, c'est la régulation de l'âge. Comment on fait en sorte que des moins de 13 ans, mais plus largement des mineurs, n'aient pas accès à des choses qui soient interdites aux mineurs. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Ça doit se faire au niveau français, mais surtout au niveau européen. Et d'ailleurs, l'essentiel de cette régulation, aujourd'hui, elle est possible. Il y a à Bruxelles, on a été les voir avec Laure Miller, qui est la rapporteure la semaine dernière, un service d'enquête de la Commission européenne qui travaille sur les plateformes du numérique. Et si TikTok ne respecte pas, mais comme l'ensemble des plateformes, hein, parce qu'on parle de TikTok, mais ces influenceurs, ils sont aussi sur Instagram, sur Snapchat, sur X. Et donc, si les plateformes ne font pas leur travail, à un moment, il faut couper les plateformes. Donc voilà, il faut à un moment taper du poing sur la table.
Mais ça, c'est pas forcément vous, à l'issue de cette commission, qui pourrait le faire.
Sûr, mais l'objectif de la commission, c'est de voir ce qui est sur la table, de voir ce qui est en œuvre, et de voir aussi si dans notre droit français, là on parle beaucoup de sexisme, il y a moyen de réguler, de faire évoluer les choses. Par exemple, le sexisme, on avait Bérangère Couillard, qui est la présidente du Haut Conseil à l'égalité la semaine dernière en audition, elle nous disait on manque de base légale pour pouvoir punir tous ces faits-là, alors qu'on voit bien qu'ils sont extrêmement violents et extrêmement problématiques.
Extrêmement violents, très problématiques, difficiles à réguler. Un mot encore sur le métier d'influenceur. Au fond, on s'étonne presque qu'ils influencent nos enfants, mais c'est leur métier, c'est ce qu'ils monnaient aujourd'hui.
Et alors certains gagnent beaucoup d'argent de différentes manières, soit par des placements de produits problématiques, par exemple Adé Laurent faisait de la pub pour de la crypto-monnaie, ou Julien Tanti aussi, c'est de façon totalement dérégulée. Hein. Enfin voilà, vous allez faire ce qu'on appelle du copy trading, donc vous copiez des placements financiers, vous pouvez perdre tout votre argent. Ou alors, deuxième manière de gagner de l'argent, c'est dans les lives. Vous allez demander en live à ce que les gens vous donnent de l'argent. Et donc il y a comme ça des jeunes qui vont donner 500, 1000, certains ont donné même jusqu'à 150 000 euros à leurs influenceurs préférés, certains se sont ruinés pour cela. Et puis il y a aussi TikTok qui va donner beaucoup d'argent parce qu'on est payé à la vue. Et donc voilà, tout ce modèle économique, évidemment, c'est de l'influence problématique. À côté de ça, il y a aussi de l'influence responsable. Hein. Moi, je suis l'auteur de la loi influenceur. D'ailleurs, on est le 10 juin aujourd'hui. Ça fait 2 ans, jour pour jour, qu'on a fait rentrer en vigueur la loi influenceur. Ça a contribué quand même à assainir le secteur, à faire qu'il y ait plus de transparence. Donc, il faut continuer là-dessus parce qu'aujourd'hui, le Far West existe toujours, même si c'est...
Le Far West, voilà. C'est sur les réseaux sociaux. Arthur Delaporte, merci.
Encore il y a deux...
Et honnêtement, On en reçoit beaucoup des politiques ici, mais quand vous avez chacun comme ça un sujet dont vous vous emparez comme vous le faites depuis plusieurs années, c'est effectivement satisfaisant de se dire que vous connaissez votre dossier, que vous tirez ce fil, et j'espère bien que vous serez suivi. Arthur Delaporte, donc député socialiste du Calvados.
Merci d'en parler.
Président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Nous tous, parents, soyons particulièrement attentifs.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Anaïs Castagna.
RMC, Anaïs Matin.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Anaïs Matin de 6h à 9h sur RMC. On va se réveiller ensemble dans la bonne humeur, c'est ma promesse, avec toute ma bande, toute la bande d'Anaïs Matin, Peggy Broche, Thibaut Jean-Grand, Rémi Jacob, les correspondants d'RMC en région et vous, évidemment, au 32-16. De l'info toutes les demi-heures et des invités qui font l'actualité. A tout à l'heure, dès 6h sur RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline de Malherbe.
Dans le contexte économique actuel, les PME, c'est un énorme vecteur d'embauche en France et elles doivent être soutenues. Alors sur RMC, on lance la 16e édition des trophées PME RMC BFM, le premier concours des PME de France. Vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, participez et gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC et sur les chaînes BFM locales.
Faites comme Too Good To Go, Blablacar ou encore C'est qui le patron et inscrivez votre PME dès maintenant sur trophées PME RMC BFM.fr.
Les trophées PME RMC BFM, ensemble, bougeons-nous.
Les trophées PME RMC avec Dacia. Dacia, des solutions économiques et sur mesure pour votre mobilité professionnelle. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Stéphanie, vous êtes médecin, vous travaillez à l'hôpital, vous vivez à Paris et vous êtes la mère d'Elias. Le 24 janvier dernier, en sortant de son entraînement de foot, votre fils Elias, qui avait 14 ans, a été attaqué à coups de machette et de hachette par deux jeunes de 16 et 17 ans qui lui demandaient son portable. L'aorte est touchée. Elias est mort des suites de ses blessures le lendemain. Ces deux jeunes, ils étaient connus de la police, ils avaient déjà été présentés à des juges, ils avaient l'interdiction officielle de rentrer en contact, mais ils étaient ensemble et ils habitaient même dans la même résidence. La France entière a été bouleversée par la mort de votre fils Elias. Nous sommes ensemble, toutes les deux, jusqu'à 9h30, parce que un peu plus de 4 mois après la mort de votre fils, vous avez décidé de parler, une fois, de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Au nom d'Elias, mais je le précise aussi au nom de toute votre famille, du père d'Elias, de ses frères et sœurs, de ses grands-parents, de ses amis. Et ce matin, vous allez donc d'abord nous raconter cette journée, le 24 janvier dernier, et celles qui ont suivi. Vous allez aussi nous parler d'Elias. Et puis vous allez ensuite tenter de tirer le fil de ces questions qui vous hantent. Pourquoi? Comment? Qui? Les responsabilités, les lâchetés, les dénis, les dysfonctionnements et la mort d'un enfant. Est-ce que vous êtes prête?
Oui, je vous remercie de me recevoir. Je voudrais juste dire, avant de commencer, je voudrais dire à mon fils aîné et à ma fille aînée qui ont 24 et 21 ans, je voudrais leur dire que je les aime plus que tout au monde, qu'aujourd'hui je suis là pour parler de leur petit frère Elias, pour le défendre. Mais je ne voudrais pas qu'ils doutent de l'amour que j'ai pour eux et du fait que je continuerai de m'occuper d'eux. Ce n'est pas parce que je viens parler et que je reparle d'Elias que je ne m'occuperai pas d'eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction.
C'est dit. Stéphanie, le 24 janvier dernier, 19h45, c'est l'heure où Elias vous appelait souvent en sortant de son entraînement de foot. Et ce jour-là, ce n'est pas Elias qui vous appelle, c'est son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il vous dit et qu'est-ce qu'il se passe ?
Le meilleur ami d'Elias m'appelle pour me dire que Elias est à terre et qu'il a pris un coup de lame. Donc je travaille pas très loin, puisque c'est notre rituel. Je travaille pas loin. Le vendredi en fin de journée, je finis tard ma consultation. Et donc j'ai pu, grâce à cet appel, arriver tout de suite. Et au moment où je suis arrivée, il y avait déjà les policiers, déjà les secours, déjà les médecins du SAMU. Et ce qui a été frappant, ce que je n'imaginais pas, c'est que le meilleur ami d'Elias a tout de suite dit le mot machette. C'est un mot qui est très violent, que j'ai pas réussi à entendre au départ. ni les policiers. Ça semble impossible, inentendable, le mot machette. Et pourtant, c'était la réalité. Et de cette réalité, de ce coup de machette qui est porté au thorax. Le thorax, tous les organes vitaux sont au niveau du thorax. Donc, pour moi, ces deux individus, en poignardant Elias au thorax, c'est une volonté de donner la mort. Poignarder un enfant dans un mollet, imaginons, ce n'est pas la même chose que le thorax. Vous l'avez dit, au niveau du thorax, il y a le cœur et l'aorte. Et en l'occurrence, une plaie transfixiante de l'aorte, malgré une prise en charge chirurgicale, technique, exemplaire pendant toute une partie de la nuit, une telle plaie thoracique ne laisse aucune chance à Elias de s'en sortir.
On entend d'ailleurs la mère, mais la médecin. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur les lieux, vous comprenez tout de suite.
Non, je ne comprends pas tout de suite parce que, personne ne comprend tout de suite, parce que le mot machette, on n'arrive pas à l'intégrer. Et qu'en fait, la plaie d'Elias, elle semble superficielle. Elias, en fait, il a parlé au départ, il s'est effondré ensuite. Moi, quand j'arrive, il est effondré, il est au sol. Mais on ne comprend pas bien pourquoi finalement une plaie superficielle semble autant l'altérer. En sachant que quand j'arrive, le fait que le meilleur ami d'Elias ait eu le courage, parce que c'est un jeune homme courageux, il deviendra un homme très courageux. Ce jeune homme a eu le temps de m'appeler, de soigner Elias, de rester près d'Elias, d'appeler les secours, d'appeler la police. En fait, Elias, il est à terre, mais il respire. Il respire doucement, ça me permet de me mettre à côté de lui.
Vous vous allongez à ses côtés.
Je m'allonge à ses côtés. Je m'allonge à côté de mon enfant, je lui parle, je le rassure. Et en fait, on n'imagine pas ce qui va se passer. Lui est calme, il respire difficilement. Et en fait, dès qu'il va être transporté dans le camion du SAMU, son état va se dégrader. Son état va se dégrader parce qu'en fait, il y a une hémorragie interne qui est en train de se constituer. Et après, en fait, il va faire des arrêts cardiaques répétés. On va aller très vite à l'hôpital Necker où tout le monde sera présent. Toutes les équipes de réanimation, de chirurgie. Et en fait, tout le monde va faire tout ce qu'il peut pour réparer de la plaie de l'aorte. Et ça va être fait. Sauf que dans la nuit, l'état biologique d'Elias va se dégrader. Et en fait, je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe de Necker et surtout le réanimateur qui était avec nous cette nuit, le docteur Mathieu Ben David, qui nous a laissé toute la nuit auprès de notre fils. C'est-à-dire que lui, il gérait, il faisait son travail. Et le fait d'être le papa d'Elias et moi toute la nuit autour de notre enfant, de pouvoir lui parler toujours, même s'il était intubé et ventilé, ça nous a permis d'être près de lui et surtout de comprendre qu'Elias ne répondait pas au traitement, que ça ne marchait pas, que les culots globulaires faisaient qu'il ne répondait pas au traitement.
Stéphanie, quand vous arrivez sur place, qu'Elias est donc à terre, qu'il respire difficilement, qu'est-ce que vous lui dites et est-ce qu'il a quelques mots à ce moment-là avec vous?
Non, il n'a pas de mots pour moi, il respire, il a du mal à respirer, il regarde le ciel, il est allongé sur le dos, il tourne un peu la tête vers moi, donc il est vivant. Mais il est en train de se déglobuliser, c'est-à-dire qu'il est en train d'avoir une hémorragie interne, donc sa conscience est en train de s'altérer, mais il entend ce que je dis. Et j'ai le mot chance est difficile à dire, parce qu'Elias n'a pas de chance. Elias n'a pas eu de chance, mais moi, en tant que mère, j'ai la chance de pouvoir parler à mon enfant et de l'apaiser.
Vous l'apaisez, vous passez ces 24 heures à ne jamais le quitter,
oui.
À être auprès de lui, comme vous le dites, dans la chambre d'hôpital. Que vous raconte le meilleur ami, celui dont vous dites qu'il a fait face?
Il raconte tout simplement deux adolescents parisiens qui sont les meilleurs amis, qui sortent comme tous les Parisiens de 14-15 ans qui jouent au foot. Ils sortent de leur entraînement, ils parlent de la vie d'élèves de 3e et ils vont prendre leur Vélib. Et en fait, tous les vendredis, il y avait une discussion sur est-ce qu'ils ont le droit ou pas d'aller dîner tous les deux ou est-ce qu'ils rentrent à la maison. Voilà, c'était un accord entre nous et une liberté que je lui ai accordée. d'un petit plaisir du vendredi soir.
Le plaisir du vendredi soir, le fait qu'ils se parlent. Il vous raconte la scène puisqu'il a assisté à l'intégralité de la scène. Qu'est-ce qu'il vous dit ?
En fait, ce qu'il nous dit, et c'est le premier point où vous perdez la raison. Les policiers de la BAC sont là très rapidement. Lui vous dit, il a été attaqué par une machette. À ce moment-là, il y avait une passante qui était là. Et en fait, les policiers de la BAC sortent leur téléphone portable et font défiler des photos. Et c'est assez improbable. La passante qui est là dit, mais je les connais, ils habitent là, ils sont là. Donc, le premier élément sur lequel votre esprit, votre fils est à terre, il a pris un coup de lame. Les deux délinquants, les deux individus sont archi connus de la police.
Laurent Nunez, le lendemain sur notre antenne, a dit qu'ils étaient tellement connus que ses équipes, dès qu'ils ont su le drame, ont immédiatement fait le rapprochement avec ces deux jeunes.
Oui, c'est désarçonnant. C'est désarçonnant, c'est-à-dire que il y a une espèce... c'est désarçonnant pas pour la police, pas pour la... Enfin, en fait, ce qu'il va falloir mettre en lumière, c'est le travail des policiers, le travail de la BAC, le travail de la police judiciaire qui écope. Eux, ils écopent une société qui est en train de prendre l'eau. C'est-à-dire qu'ils les connaissent, les délinquants. Ils passent leur temps à les attraper, à les mettre en détention. Et il y a des jugements qui sont rendus, qui font que ces délinquants sont remis en liberté.
Ce que vous avez découvert, Stéphanie, en fait, vous aviez votre vie quotidienne de gens qui bossent, qui vont travailler, vous à l'hôpital, le père lui-même est chirurgien, vos enfants, votre vie quotidienne, le vendredi soir, l'entraînement de foot de votre fils, votre agenda, votre vie. Vous êtes par ailleurs engagé dans la société en tant que médecin, vous pensez que les choses fonctionnent à peu près. Et la mort d'Elias, c'est tous ces fils qui presque sont tirés un par un devant vous par les policiers, les enquêteurs, et le sol se dérobe sous vos pieds une deuxième fois. Est-ce que je peux le dire comme ça ?
Vous pouvez le dire comme ça, vous pouvez... En fait, c'est mes valeurs, c'est nos valeurs. Nous sommes chirurgiens et médecins, nous avons fait des études de médecine, nous travaillons dans les hôpitaux. On a un esprit engagé, citoyen, altruiste. Enfin, on soigne les gens, on croit en la société. Et là, nos valeurs, depuis la mort d'Elias, en plus de la mort d'Elias et de l'absence d'Elias, on voit toutes nos valeurs s'effondrer. Pas les valeurs de la police, au contraire. Nous, on a découvert une équipe, enfin la troisième DPJ est une équipe sous le commandement du commandant Pierre Guillaume qui est formidable. En fait, on découvre aussi la rapidité d'intervention de la BAC, on découvre des hommes et des femmes qui sont rigoureux, qui, comme les médecins, manquent de moyens, mais qui finalement font leur travail avec humanité, rigueur, autorité, lorsqu'ils vont interroger les deux individus. Et c'est des personnes qui travaillent rigoureusement, et ça, c'est quelque chose qu'on découvre.
Les dysfonctionnements, ils sont en amont. On va y revenir tout à l'heure, parce que vous avez réfléchi très précisément et vous avez des questions très précises.
Oui.
Vous dites 4 mois après, j'attends des réponses. Vous avez écrit cette lettre le jour de la fête des mères, où effectivement vous demandez qui s'est moqué d'Elias. Donc on va reprendre point par point. Mais je voudrais d'abord que vous nous parliez d'Elias. Je voudrais qu'on puisse parler d'Elias ce matin. Parce que vous nous dites, dans cette lettre, vous le dites, c'est un garçon qui m'appelait, qui disait coucou maman, qui m'appelait pour me dire je viens dîner ce soir, qui vous laissait des petits mots. C'est un garçon sportif, on le voit. Vous dites c'est un fils, un frère, un copain, un petit-fils, un amoureux. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Elias ?
La particularité, en dehors du fait qu'Elias soit un garçon de 14 ans, un collégien et un joueur de foot, Elias a une qualité que finalement assez peu de personnes ont, notamment au moment de l'enfance et de l'adolescence. C'est un enfant qu'on aime, parce qu'il est joyeux, parce qu'il est heureux, parce que des fois il s'énerve, parce qu'il a des principes d'un garçon de 14 ou 15 ans. Mais en fait, il a une particularité, c'est qu'il est aimant. En fait, il aime les gens. Il nous aime. Et c'est quelque chose de très particulier, d'avoir un enfant aimant. Il donne de l'affection aux autres, il donne de l'importance à sa famille, il aime sa petite amie à qui il offre des fleurs, tout simplement, à qui il lui paye le burger quand ils vont manger tous les deux. C'est un enfant qui est attentionné. Et quand on est parent et grand-parent, c'est très, très surprenant. Quand mon père, donc son grand-père, lors de l'enterrement, a fait le discours pour Elias, à la fin du discours, il a dit « Elias, aime-nous encore ». C'est-à-dire que Elias a une vie merveilleuse, 14 années où il a été très heureux, joyeux. Dans l'absence d'Elias, il y a ce manque d'amour qu'il nous donnait aussi. Et je crois que Elias avait évidemment des défauts, mais il avait cette grande qualité d'aimer les autres. Et cet amour qu'il avait pour nous, pour beaucoup de personnes, cet amour nous manque.
Cet amour vous manque, Elias, donc, qui avait 14 ans, qui était en troisième au lycée Montaigne, qui était membre d'un club de foot. Oui. Donc on y reviendra parce que j'ai senti, et je voudrais le dire ce matin à tous ceux qui nous écoutent sur RMC, qui nous regardent sur BFM TV, Stéphanie, vous la mère d'Elias, vous avez à cœur que votre message, lorsque vous le dites aussi avec vos mots, quand vous dites nos valeurs se sont ébranlées, que votre message soit universel. Vous êtes une femme française, une mère engagée dans la société aujourd'hui. Votre message, c'est celui d'une mère, mais c'est aussi celui d'une citoyenne. Et vous avez réussi en quelque sorte, et c'était d'ailleurs très frappant dans cette lettre, et c'est encore frappant dans vos mots aujourd'hui, à maintenir ces deux pans de ce que vous êtes et de ce qu'est votre famille.
Pour nous, le père d'Elias et moi, si à travers lui je parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a un sens aigu du devoir. Et là, on se doit de parler d'Elias, mais de parler aussi de la société qui nous entoure. Et donc, comme vous le dites, je parle comme une citoyenne et je ne parle pas uniquement d'Elias, adolescent parisien, qui sort de son entraînement de foot. Il y a à peu près 1 million de licenciés de moins de 18 ans en France qui jouent au foot, filles et garçons. Donc il y a 1 million de jeunes qui peuvent être en danger lorsqu'ils sortent de leur entraînement de foot. Donc nous aimerions, en tant que parents, notre fils est mort. On est lucide, on sait qu'il ne va pas ressusciter. Mais nous, ce qu'on veut, c'est protéger, par notre message, réveiller les consciences et protéger les vivants, protéger tous ces joueurs de foot et joueuses de foot qui vont rentrer de leur entraînement et qui ne peuvent pas mourir tués par des barbares qui sont armés. C'est pas un couteau, ils sont armés d'une machette et d'une hachette. Donc c'est pas possible d'entendre ça, c'est pas possible de laisser perdurer ces actions.
On va prendre le temps de parler effectivement du parcours judiciaire, pourtant déjà très long, mais on le voit avec la mort d'Elias, qui a pas empêché que ces deux jeunes commettent l'irréparable. Lorsque vous prenez le temps de redire les mots machette et hachette, pour vous c'est important de le dire, je précise même, et d'ailleurs j'ai immédiatement regardé, et j'invite ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent à le regarder aussi, la machette en question, elle s'appelle Zombie Dead. C'est une machette que l'on peut trouver sur Internet, que ce jeune s'est acheté sur Internet. Il s'agit d'une lame de 40 cm de long. Pourquoi vous insistez? Parce qu'aussi, pour vous, ça n'est pas un fait divers, ça n'est pas une situation qui tourne mal. Ce n'est pas un jeune qui, en sortant de chez lui, mettrait juste un couteau dans sa poche et à la faveur d'une bagarre, sortirait un couteau. Une machette dont la lame fait 40 cm, dont le nom s'appelle Zombie Dead. Il y a une intention. Quand on se promène avec une machette, avec une hachette, la hachette en question, c'est une sorte de petite hache qui est vraiment extrêmement impressionnante, qui elle n'a pas servi à tuer Elias, puisque c'est la machette qui l'a tué. Mais la hachette a servi à l'intimider également. Pour vous, c'est important et on ne peut pas minimiser et ne pas dire les mots.
On ne peut pas. Pourtant, alors c'est très douloureux. Hein. C'est quand vous êtes en réunion avec la troisième DPJ et même si vous avez entendu le mot machette, mais lorsque 3 jours après les faits, le commandant Pierrick Guillaume vous confirme que les 2 armes retrouvées sont une machette et une hachette, c'est très violent. Ça témoigne d'une barbarie, c'est-à-dire que ces 2 individus ne sont pas juste 2 jeunes délinquants, c'est des barbares. C'est-à-dire que c'est pas un gros mot de dire barbare, c'est une définition. Les mots ont un sens. Sortir pour tous les vendredis soirs, décider de voler des jeunes armés d'une machette et d'une hachette, c'est des barbares.
Je précise que le meurtrier présumé, donc il y a 16 ans, est cité dans une 15aine d'affaires de raquettes selon la police. Et lorsqu'il est en garde à vue quelques jours après la mort d'Elias, il reconnaît 1 à 2 raquettes par semaine. Et il a ces mots, j'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais j'ai pas tout rentré. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris. Le confrère lui-même a enchaîné, je cite, les bêtises. Et mes confrères du Parisien, après enquête, disent qu'il avait tant enchaîné les bêtises, entre guillemets, qu'en 2022, il est renvoyé en Afrique où vit une partie de sa famille pour être éloigné. Mais de retour en France, il retombe donc dans la délinquance. On va marquer une petite pause. Stéphanie, le temps aussi que vous repreniez votre souffle. Je voudrais aussi préciser que lorsqu'on va se retrouver dans 3 minutes, vous voudriez parler aussi de votre lettre. Je voudrais qu'on la relise en partie ensemble parce qu'il y a dans votre lettre quelque chose du j'accuse sur les dysfonctionnements, sur les dénis. Justice, parents, élus, politiques, journalistes également. Depuis 4 mois, j'attends des réponses, je ne vois rien venir. Dites-vous, on va voir si vous avez obtenu quelques réponses. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Du lundi au vendredi, 6h39h.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC.
Ils sont sportifs.
Ils se voient le week-end.
Ils forment une grosse équipe.
Ils ne pratiquent pas la langue de bois.
Ils aiment le rugby,
le foot,
le judo,
l'escrime,
le cyclisme,
le handball,
la voile,
le karaté,
le skateboard,
la pétanque,
le ski,
le biathlon,
le triathlon,
le pentathlon,
le décathlon.
Et surtout, le sport.
Ce sont les grandes gueules du sport, bien sûr.
Tous les samedis et dimanches, 9h midi sur RMC.
Sur RMC, la nuit,
RMC,
c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Avec vous, Stéphanie, pour ceux qui nous rejoignent, je le reprécise, vous êtes médecin, vous travaillez à l'hôpital, vous vivez à Paris, vous êtes la mère d'Elias. Elias, qui est donc ce jeune homme de 14 ans, qui a été attaqué à coups de machette et de hachette le 24 janvier dernier et qui est mort de ses blessures. Le lendemain, il sortait de son entraînement de foot. Vous avez parlé d'Elias, vous nous avez raconté cette journée. Et puis, il y a toutes ces questions qui vous hantent. Depuis 4 mois, j'attends des réponses, je ne vois rien venir. Qui s'est moqué d'Elias? Vos questions, elles sont très précises. Et il y a plusieurs points que vous listez dans la lettre que vous avez écrite le jour de la fête des mères. Qui s'est moqué d'Elias? Ces 2 adolescents de 16 et 17 ans, en toute impunité. Cette mère qui n'a pas jugé bon de sécuriser les abords du stade qu'elle savait mal fréquenter. Les médias qui n'ont pas eu l'honnêteté d'écrire les mots hachette ou machette. Les juges des enfants qui ordonnent à 2 reprises une interdiction d'entrer en contact de 2 délinquants mais sans même vérifier leurs adresses et s'apercevoir qu'ils habitent dans la même résidence. Les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur qui n'ont pas pris les mesures. On va prendre le temps pour chacun de ces points, mais je voudrais d'abord comprendre et savoir si depuis cette lettre que vous avez donc écrite il y a plus de 2 semaines, vous avez eu la moindre réponse.
Nous avions rencontré Gérald Darmanin quelques jours après la mort d'Elias, qui avait pris l'engagement auprès de nous de mettre en place une commission d'inspection pour savoir s'il y avait eu des failles dans les différentes prises de décision judiciaire. Et nous savons que cette commission d'enquête, cette commission d'inspection, sera rendue au mois de septembre. Donc Gérald Darmanin, qui a répondu, répond à notre attente et nous espérons avoir des réponses dans cette commission d'inspection.
La justice d'abord. Vous dites, Elias est mort en raison d'une impunité dans laquelle se sont sentis deux mineurs malgré une prise en charge éducative et pénale. Si la justice doit être éducative, elle doit demeurer également répressive et protectrice des droits de chacun. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce que vous avez découvert de tout ce dysfonctionnement-là ?
En préambule, je voudrais dire que le père d'Elias et moi, nous ne sommes pas en colère. Nous ne sommes pas rongés par la haine. Nous voulons des réponses. Nous voulons des explications. Lorsque nous sommes avec nos avocats et que nous voyons successivement tous les délits, tous les vols avec violence réitérés depuis 2021, et qu'en 2023 et 2024, la décision des juges des affaires familiales est une mesure de non-regroupement, alors que tout simplement, si vous prenez un téléphone, une carte, vous notez leurs adresses, ils habitent. L'adresse n'est pas la même, mais ils habitent dans la même résidence. Les juges nous expliquent en permanence qu'ils n'ont pas de moyens. Nous sommes médecins et chirurgiens, nous n'avons pas de moyens. Nous allons à la troisième DPJ, ils n'ont pas de moyens. Ils ont une imprimante par étage. Les juges des affaires familiales, lorsqu'ils prennent cette décision, ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de lucidité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas se moquer de nous. On ne peut pas dire on n'a pas les moyens. Tout le monde a les moyens de prendre une carte et de vérifier que la mesure qu'on a déjà prise une fois n'a pas marché. Et quand on la reprend la deuxième fois, on ne peut pas dire à deux barbares ne rentrez pas en contact quand ils habitent dans la même résidence. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est qu'on nous explique. Nous avons besoin d'avoir les argumentaires des juges que nous n'avons toujours pas.
Vous n'avez pas eu les argumentaires des juges. Vous ne savez pas pourquoi, après tous ces délits,
non.
Après toutes ces rencontres non. Avec la police, avec la justice, après une première demande de ne pas rentrer en contact, mm-hmm. Elle est réitérée malgré la proximité mm-hmm. géographique. Nos confrères, mes confrères du journal L'Humanité, ont même mené l'enquête et dit que de manière, je cite L'Humanité, de façon systématique, les adolescents ne répondaient jamais aux convocations des éducateurs et de la PJJ, puisqu'ils étaient suivis en principe par la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Donc ils ne répondaient pas aux convocations, en plus du fait qu'ils étaient en permanence vus ensemble. Et en dépit de ces refus, je cite encore L'Humanité, ils n'avaient pas pour autant été intégrés à des programmes plus contraignants du type centre éducatif fermé. Vous n'avez pas eu de réponse sur ces points ?
Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas l'argumentaire du mois de novembre 2024, donc on est en juin 2025, pardon. On n'a toujours pas d'explication. En fait, je vais faire un parallèle. C'est comme si le pédiatre de ces juges pour enfants, voyait leur enfant, leur adolescent, le voyait en consultation, posait un diagnostic et envoyait 9 mois après l'ordonnance de traitement. Ça n'a pas de sens. C'est pas un manque de moyens. Ce document, a priori, il est en attente de signature. Ce n'est pas des manques de moyens, c'est signer un document, donner ce document. Si je vous vois en consultation, si vous êtes hospitalisé dans mon service, que je ne souhaite pas, quand vous allez sortir du service, on va vous donner votre compte-rendu d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il y a une exigence envers la médecine et la chirurgie au quotidien que les juges n'ont pas. Et pour nous, ça signifie deux choses. Soit on nous cache quelque chose, on nous cache une erreur judiciaire, ou alors la justice est injuste avec les victimes, et les victimes n'existent pas aux yeux de la justice.
Vous vous êtes senti, de ce point de vue-là, vous avez dit, j'ai rencontré une justice qui est extrêmement attentive au coupable présumé.
Oui.
Mais vous, vous parlez beaucoup des policiers qui se sont occupés de vous.
Oui.
Qui continuent à vous accompagner au fur et à mesure des données de l'enquête. Est-ce que vous avez pu parler à des juges? Est-ce que des juges pour enfants vous ont vu? Est-ce que vous avez pu avoir ces échanges-là?
Non. Alors, on a bien compris le principe de l'indépendance de la magistrature. On a bien compris ce principe-là. Néanmoins, nous, on estime que les victimes ont le droit à des explications et des argumentaires. D'ailleurs, on va peut-être comprendre leur argumentaire. Mais en fait, ils n'ont pas de responsabilité face aux victimes. C'est-à-dire qu'en médecine, il y a des réunions entre nous pour... Si on a l'impression qu'il y a eu un dysfonctionnement, qu'on aurait pu faire mieux. Entre nous, médecins.
Vous avez régulièrement des bilans.
Des RMM, des revues de morbi-mortalité. On a aussi le devoir, lorsqu'il y a de rencontrer les familles, de leur expliquer les décisions qu'on a prises. On passe du temps, et il y a des médiations, des commissions de médiation avec les relations patients, où on est face aux patients, où on leur explique. Et d'ailleurs, quand on explique une décision médicale, on peut le comprendre. On a l'impression, nous, que les juges, ils n'écoutent pas les victimes. On a l'impression, et on se trompe peut-être que la décision qu'ils ont prise au mois de novembre, elle est fantastique. Peut-être que ces décisions, elle est pertinente. Peut-être que c'est limpide de relâcher des barbares dans la nature et de dire... On verra bien au mois de juin.
Ça, c'est par principe que vous le dites.
C'est par principe. Évidemment, c'est par principe. Mais on se doit d'écouter les victimes et je pense que malgré l'indépendance de la magistrature, les juges se doivent de rencontrer les familles et d'expliquer leur argumentaire, surtout quand leur enfant est mort, poignardé par une machette et une hachette par deux individus multirécidivistes, archi connus, et qu'ils agissent depuis 2021 en toute impunité. Ça veut bien dire que les mesures éducatives qu'on respecte ne marchent pas à un moment, et donc à un moment, il faut une autorité.
Quand vous dites effectivement ça ne marche pas, nous espérons que les juges à un moment ou un autre nous donneront les explications, la justification. Je précise donc que les deux jeunes ont été interpellés. Qu'ils sont aujourd'hui mis en examen, l'un pour extorsion avec violence ayant entraîné la mort, l'autre pour violence volontaire sur mineur sans incapacité pour les violences contre le meilleur ami d'Elias. Ils ont été placés en détention provisoire. Est-ce qu'ils y sont toujours d'ailleurs, vous le savez ?
Oui.
Et ils risquent 15 ans de réquisition criminelle, 30 ans si l'excuse de minorité n'était pas retenue. Qu'est-ce que vous attendez de la justice ? Aujourd'hui, on a compris ce qu'ils n'avaient pas fait, mais qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui ?
Que la justice soit juste, que la justice défende enfin Elias.
Il y a les politiques.
Oui.
Vous en avez rencontré quelques-uns qui ont soit d'eux-mêmes souhaité vous rencontrer, soit vous-même vous avez été vers eux. Je voudrais qu'on commence par la maire du quartier, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est passé localement, dans un endroit où d'autres familles avaient déjà été confrontées, heureusement pour eux, pas à la mort de leur enfant, mais à des rackets, à des violences, à des intimidations. Les éducateurs d'un autre club de foot avaient identifié un petit groupe de jeunes qui étaient plutôt dans l'agression verbale vis-à-vis des joueurs. Voilà ce que dit la mère du 14e juste après la mort d'Elias. Toujours les mêmes, on a réuni le club de prévention spécialisée, le commissariat, la police municipale. Chacun a fait son travail, a dit la mère du 14e. Toutes les équipes locales ont fait le boulot, justement pour éviter qu'il se passe quelque chose de grave. Des plaintes avaient été déposées par des familles et ces jeunes avaient fait l'objet de contrôles et de mesures judiciaires. Est-ce que vous pouvez entendre ça ?
Nous ne pouvons pas entendre ça et je ne souhaite pas prendre du temps pour parler de Karine Petit, qui est pour moi une femme, pour le père d'Elias et moi, une femme inconséquente et inadaptée.
Karine Petit, c'est la mère, Europe Écologie Les Verts du 14e. Je comprends que vous ne voulez pas en dire plus, tant ça vous paraît difficile, incompréhensible. Les politiques eux-mêmes, il y a eu cette loi sur la justice des mineurs qui a été adoptée, qu'on appelle la loi Attal,
oui,
qui effectivement revient notamment sur cette question. Au fond, ce que vous disiez à l'instant, y compris en tant que médecin, lorsque vous dites, moi, lorsque je vois en consultation le patient repart avec le diagnostic et l'ordonnance, ça c'est le problème de la césure, ce qu'on appelle la césure dans la justice des mineurs. Je le répète ici, mais on en a énormément parlé juste après la mort de votre fils, qui a précisément montré cela. Les deux jeunes en question, qui étaient donc multirécidivistes, étaient déjà passés plusieurs fois devant des justes, mais ils avaient notamment eu la première comparution, qu'on appelle la comparution de culpabilité. Ils avaient donc été jugés coupables.
Oui.
Ça, c'est en octobre. Mais en revanche, ils n'avaient pas encore été sanctionnés. Ça devait être le 5 juin dernier, donc il y a quelques jours. Ils étaient dans ce moment entre deux, où normalement ils sont coupables, mais pas encore punis. Ça vous paraît impossible qu'il y ait, c'est-à-dire dans votre chair, j'allais dire, dans la chair d'Elias, mais dans votre chair de mère, vous ne pouvez pas comprendre que l'on distingue la culpabilité et la peine.
Alors, je voudrais remercier Gabriel Attal qui a porté cette loi en tant que député, et j'aimerais aussi remercier profondément la sénatrice Marie-Claire Carrère-Gé, qui s'est battue également au Sénat pour porter cette loi. En ce qui concerne la césure, très simplement, en tant que parent, et je crois que vous êtes mère de 4 enfants, lorsque votre enfant fait une bêtise, vous lui dites « tu fais une bêtise ». S'il refait cette bêtise, s'il revient à 20h alors qu'il devait rentrer à 20h30 alors qu'il devait rentrer à 20h, il est puni une fois, il est puni deux fois. À aucun moment on lui dit « et tu sortiras plus vendredi prochain ». À aucun moment vous lui dites « dans 9 mois, on en reparle et on verra si on te punit. » Ce concept de la césure, en tant que parent, en tant que citoyen, en tant que... Ça nous semble... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui va se passer pendant ces 9 mois. La seule chose qui se passe pendant ces 9 mois, c'est donner un sentiment d'impuissance à ces adolescents. Ils vont pouvoir continuer sans aucun problème à se promener avec une machette, une hachette, à continuer de voler des jeunes et puis à un moment de les tuer parce qu'ils sont barbares, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas civilisés, ils n'ont pas compris ce qu'était l'être humain, ils s'en fichent de ce qu'est un être humain, un adolescent.
Vous dites le mot barbare, vous le savez parce que vous êtes, comme je le disais, très engagé dans la société, dans votre époque. Vous savez que ce mot barbare, il a provoqué une polémique lorsqu'il a été employé par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a parlé d'un effondrement de l'autorité et effectivement de barbare. Il a précisé qu'il s'agissait, et on peut le vérifier dans le dictionnaire, de ceux qui ne sont pas civilisés. Vous l'utilisez à dessein là, et pour vous, c'est important de le dire. Il n'y a pas de tabou.
Il n'y a pas de tabou, c'est... Les faits, les mots ont un sens. C'est-à-dire que ce sont des barbares. C'est la définition du dictionnaire. Ils sont décivilisés. Ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas d'âme.
Au sens du bien et du mal, vous voulez dire au sens de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire,
Ils n'ont rien. En fait, lorsque ma fille qui a 21 ans a demandé au commandement de police, elle lui a demandé est-ce que ils regrettent, est-ce qu'ils ont des frères et des sœurs, est-ce qu'ils ont de la peine, est-ce qu'ils ont de la peine pour nous. Le commandant de police lui a dit, on arrête, n'imagine pas ce qu'ils pensent, ils ne pensent pas comme nous.
Est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce que vous savez s'ils ont répondu quand même?
Rien.
Ils n'ont pas répondu.
Ils n'ont pas présenté d'excuses, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, au contraire, ils disent Ils savent pas, en fait. Ils poignardent un enfant. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas d'explication, ils n'ont pas d'excuses. Donc je pense que tout ça témoigne d'une insensibilité de gens qui ne font pas partie, d'adolescents qui ne font pas partie de la société. Et ils ne doivent plus faire partie de la société. En fait, ils ne peuvent pas vivre avec nous.
C'est-à-dire que vous ne pensez pas, vous ne croyez plus à la possibilité de vivre ensemble?
Non. Je pense qu'ils mettront en danger d'autres enfants.
C'est un problème d'éducation, c'est un problème... Vous posez la question d'ailleurs, hein, vous dites il y a une responsabilité des juges, des politiques qui n'ont pas vu cet ensauvagement dont vous parlez. Est-ce que vous inquiétez aussi de l'éducation plus globalement des jeunes aujourd'hui? On vous sent à la fois bouleversée et en même temps en maîtrise. C'est-à-dire vous dites je ne suis pas en colère, mais il y a un refus. Je sens face à moi une femme qui est dans le refus. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible.
Ça n'est pas possible. Si vous me le permettez, je vais lire mes notes. Ce week-end, dans le journal Le Parisien, Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation nationale, nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Elle a tenu ses propos. Je la cite, « Le rapport sur le frérisme, la mort d'Elias ou les violences en marge du match du PSG choque à juste titre les Français. » Mais on ne doit